France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire. D'observer un moment de silence.
Si l'on parle de geste artistique, le sien en est bien un. Et même un geste fou de cinéma dans ce méga film sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Un architecte juif hongrois de retour des camps émigre en 47 aux États-Unis pour y reconstruire sa vie, sa carrière, son couple. The Brutalist, The Film signé de l'américain Brady Corbet raconte sur 30 ans et en 3h30 ce parcours chaotique incarné par Adrian Brody. Pour encadrer cette œuvre, évoquer ce mouvement, le brutalisme, les effets de l'histoire sur l'architecture et inversement, et de l'architecture sur le cinéma, deux invités. Bonjour Alexandre Chemetov.
Bonjour.
Architecte, urbaniste, vous avez d'ailleurs été consulté par le réalisateur Brady Corbet. Et bonjour Jordan Minzer.
Bonjour.
Journaliste américain correspondant pour le Hollywood Reporter chez nous. Merci à tous les deux d'explorer ce film passionnant. Enfin, les nouvelles sorties cinéma de la Pampa à la mer au loin. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid it is not so simple. There was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline.
It's a privilege to catch this movie in theaters, and especially if you can catch it.
C'est un privilège de voir ce film dans les salles de cinéma.
Because this is
parce que c'est un événement.
It's very rare.
C'est très rare.
And it moves and feels so full of
life. Ça bouge et c'est tellement plein de vie.
It's like it's really from another time.
C'est vraiment d'une autre époque.
I think
je pense que les spectateurs qui connaissent ce genre de spectacle y aspirent. Et que les spectateurs qui n'ont malheureusement pas été sensibilisés à cette question passent à côté de quelque chose. Ils devraient pouvoir vivre et comprendre ce qu'est une expérience cinématographique sans tous ses effets spéciaux. Le sentiment d'être dans une salle obscure, de vivre un voyage comme celui-ci, et de faire un pas dans le passé, c'est vraiment incroyable.
Parole d'Adrian Brody, l'interprète central et magistral de ce film The Brutalist de Brady Corbet. Oui, une expérience de cinéma, un voyage de 3h30 avec entracte sur 30 ans d'une vie, celle de Laszlo Tots, un architecte juif hongrois, imaginé par Corbet, de retour des camps, son arrivée en Amérique en 1947, un film XXL, le troisième et le plus ambitieux de son auteur, Brady Corbet. Un mot sur lui, Jordan Minzer, et sur ce film qui risque, vu sa durée et son ambition, de brutaliser quelques Américains.
Oui, mais parfois, quand les acteurs ils font la promo de leur film, ils racontent n'importe quoi. Mais là, je trouve qu'Adam Brody a complètement raison, parce que j'ai vu le film à son avant-première à Venise, et même pour beaucoup de critiques qui ont vu beaucoup, beaucoup de films, c'était un événement. Le film a été projeté en 70 mm.
Vénard.
Ça, c'est assez rare. Et il y avait tellement d'enthousiasme dans la salle qu'il y a un entracte dans le film. À l'entracte, les gens déjà applaudissaient le film. Et l'entracte qui dure 15 minutes avec une montre, une horloge, qui
voit les minutes.
Voilà, qui
en fait, des comptes.
Des comptes. Les gens disaient à la fin 10, 9, 8, 7. Ils étaient tellement contents de replonger dans le film. Et c'est ça l'ambition de Brady Corbet. Je pense que c'était de faire une épopée hollywoodienne qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au cinéma. Ce qu'on appelle le roadshow movie, c'est des films des années 60-70, des films de 3 heures avec entracte. Il y a Le Parrain, il y a 2001, il y a Lawrence d'Arabie, il était une fois en Amérique. On est sur ce terrain-là. Et d'avoir ça fait par un jeune cinéaste, il a 35-36 ans aujourd'hui, Brady Corbet, c'est que son troisième film. Et surtout d'avoir fait ces films avec très très peu d'argent. C'est le budget d'un film indépendant. Le
10
film
millions.
A été fait pour 10 millions de dollars,
ouais.
tourné dans 33 jours.
Ouais.
Ça, c'est déjà, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du cinéma américain.
C'est les moyens d'un film indépendant.
Mais oui, mais il ne pouvait pas avoir beaucoup plus parce qu'à Hollywood aujourd'hui, en fait, on ne produit plus Lawrence d'Arabie ou Le Parrain, en fait. Parfois, si on est Scorsese, on peut avoir beaucoup d'argent pour faire Killers of the Flower Moon, qui est une sorte d'épopée. Mais c'est aussi un film, je dirais, beaucoup plus grand public d'une certaine manière que The Brutalist, en fait.
C'est très radical, ce film. C'est
oui,
très,
ouais. mais, et moi, je me suis replongé dans les autres films de Brady Corbet que j'avais vu. En fait, il est un peu plus connu aux États-Unis qu'en France. Déjà, d'abord comme acteur, il a joué dans la série 24 heures chrono.
Ouais.
Il a joué dans un film 13, qui était un film indépendant, mais qui avait bien marché. Et après, il a joué dans beaucoup de films d'auteurs, de jeunes auteurs, de Greg Araki, Mia Hansen-Love. Et après, il a joué avec, dans des films de Michael Haneke, Lars von Trier. En fait, il a joué dans des films, mais pour apprendre comment faire des films lui-même.
Oui.
Il voulait toujours être cinéaste. Son premier film, il l'a fait à 24 ans. Je l'ai revu. Il n'est jamais sorti en France. Ça s'appelle L'enfance d'un chef, d'après la nouvelle de Jean-Paul Sartre. Et déjà, on voit beaucoup d'éléments de mise en scène qu'on va voir plus tard dans The Brutalist. Les archives, le mouvement de caméra, la musique, le sens de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire avec une grande hache, et aussi l'histoire intime de personnages. Donc déjà, en fait, il est très formé avant 4 ans comme cinéaste Brady Corbet. Après, il fait Vox Lux, son deuxième film qui sort en 2018, qui n'est pas sorti non plus en France, avec Natalie Portman, qui est plus un film sur le présent, sur un pop star qui avait survécu à une fusillade dans une école. Et puis, on arrive à Brutalist. Il a mis 7 ans à monter le film, et ça, je pense qu'il est à un autre niveau, là. Moi, je dirais parmi le plus grand cinéaste américain aujourd'hui.
Carrément.
Ah ben oui.
Alexandre Chemetov, on a un architecte avec nous. En s'entendant, vous m'avez dit, c'est pas tant un film sur l'architecture, mais pourtant l'architecture est partout dans ce film.
Oui, c'est vrai. Et on comprend que c'est d'une certaine façon l'engagement de l'architecte.
Oui.
Qui est dépeint par ce film. Et je pense à ce que disait du mouvement moderne un architecte qui s'appelle Anatole Kopp et qui avait écrit un livre qui disait « Le moderne est une cause avant d'être un style ». Et en fait, ce film dépeint exactement cet état d'esprit de l'architecte engagé, non pas engagé politiquement, mais où l'architecture envahit complètement son existence, où son existence est l'architecture, d'une certaine façon, jusqu'à une forme d'excès.
On peut dire en deux mots ce que c'est que le mouvement brutaliste, Alexandre Chemetov.
Alors, en France, le mouvement brutaliste, il est représenté par une œuvre de Le Corbusier à Neuilly-sur-Seine,
ouais, pas loin
qui s'appelle, oui, qui s'appelle la Maison Jaoul, et qui est un bâtiment de béton brut et de briques, qui a beaucoup inspiré un jeune architecte qui s'appelait Paul Chemetov,
votre père,
oui, et qui, avec Jean de Roche, ont construit le foyer des anciens de la Courneuve et les briques rouges à Vigneux-sur-Seine, qui sont très fortement inspirées par cette œuvre de Le Corbusier. Mais on peut aussi citer une œuvre d'un architecte qui s'appelle Jacques Kalis, né en Pologne et émigré dans les années 30 avec son père, mort en déportation, qui a construit le centre administratif de Pantin. Et je me souviens de Jacques Kalis dessinant le plan de la cité administrative de Pantin en traçant sur du calque avec un crayon gras très épais le dessin de ce bâtiment, exactement comme ce qu'on voit dans le film, où on voit à un moment donné le héros,
ouais,
Laszlo Toth, en train de tracer comme ça avec un crayon très gras,
ouais,
un fusain. tracer un dessin très ombré, comme ça, un peu ténébreux et très contrasté, où le noir et blanc apparaît d'une façon très forte. Et ça, je trouve que c'est un trait très juste de ce film de montrer.
À part le béton, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le brutalisme dans la définition beaucoup de fenêtres, beaucoup d'ouvertures.
Je ne sais pas. Je pense que
on ne sait pas très bien.
Je ne définirais pas comme ça. Je le définirais plutôt comme une relation à la brutalité du monde. D'accord. Et une réaction à la brutalité du monde.
C'est le deuxième sens du film, d'ailleurs.
Si vous voulez, mais c'est aussi le deuxième sens de ce que font ces architectes. Mm. Parce qu'ils sont tous marqués par la guerre.
Voilà.
Kalis, Poche-Metov sont des enfants de l'immigration, marqués par la guerre, par les destructions. Et je pense en particulier à une phrase de Stephen Zweig que j'avais lue en préparant notre échange, qui dit « Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable des fêtes de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité. » Il écrit ça en 1943, à la suite des guerres. La première et la deuxième, à laquelle il ne survivra pas par sa propre décision.
Mais attendez, Alexandre Gémétov, on peut dire aussi que c'est une allégorie visuelle, cette architecture, de cette psychologie, de tout ce que ces hommes ont traversé.
Oui, je crois.
Oui.
Je crois que c'est ça. Et quand j'avais rencontré Brady
Cornell... Que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'il vous a posé comme question?
Il cherchait des destins dont il pourrait s'inspirer. Et je lui avais recommandé de s'intéresser à un architecte qui s'appelle Muño Weinraub, qui n'est autre que le père d'Amos Gitai.
Et
là aussi, qui est un architecte qui a été, qui est né en Autriche-Hongrie, donc, qui fait ses études à Dessau, au Bauhaus, sous et qui a comme professeur Hannes Meyer, qui est le deuxième directeur du Bauhaus, et qui ensuite fait toute sa carrière en Israël pour construire cet État nouveau. Mais on comprend bien que tous les gens dont nous parlons, qu'ils soient architectes, Muño Weinraub, ou cinéaste, Amos Gitai, sont marqués par la guerre.
Voilà. Bien sûr. Et
Amos Gitai fait
la
ses études.
La guerre permanente pour Gitai, en
Amos
plus.
Amos Gitai fait ses études d'architecture à Berkeley, et il est engagé dans la guerre de Kippour, dont il sort le film Kippour. Donc on comprend bien que la brutalité ou le brutalisme dont on parle est en fait pas exactement un style, mais une cause, comme le disait Anatole Kopp, et touche presque à la condition de l'existence.
Jordan Minzer, justement sur la guerre et l'architecture, c'est très intéressant parce que dans cette Amérique-là, en Pennsylvanie, en 1947, Tots va rencontrer Von Buren, qui est un richissime homme d'affaires. Et ce qui est fou, c'est que le film raconte en fait la confrontation entre un artiste, vous me l'aviez dit avant, c'est pas moi qui l'invente, un artiste victime de la guerre et un profiteur de guerre.
C'est ça, on comprend que il s'appelle, le nom du personnage, c'est Harrison Lee Van Buren, qui est un nom très, très, très lourd et très wasp, on peut dire. Et on apprend assez tôt qu'il a fait fortune pendant la guerre en reconvertissant ses usines à l'armement de l'armée américaine. Et donc, on a vraiment deux personnages complètement opposés, le financier, le capitaine d'industrie, Wasp, qui a fait fortune dans la guerre, et de l'autre côté, le juif immigré, artiste, qui a été complètement traumatisé dans la guerre. Et en fait, tout le film va... ça va être un peu le clash, déjà la rencontre et puis le clash entre ces deux personnages autour de l'œuvre que Toth est censé construire, design et construire pour Van Buren, qui est en centre. C'est plusieurs choses, mais en gros, c'est, en anglais, on dirait un community center dans la Pennsylvanie, mais qui sera aussi une œuvre d'architecture brutaliste.
À un moment, il y a une très belle scène dans une fête, ils sont tous les deux face à face, Van Buren et lui, et Van Buren lui dit « Pourquoi l'architecture ?» Et bon, sa réponse est passionnante, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est pour imprimer sa vie dans les bâtiments. C'est un peu ça, sa réponse.
Oui, mais on comprend ça. Je pense à un livre écrit par Jean-Louis Cohen, et d'une exposition qu'il avait menée au Centre canadien de l'architecture, qui s'appelle « L'architecture en uniforme ». La question qu'il pose, c'est que font les architectes pendant la guerre ? Mais ce que raconte le film, c'est qu'est-ce que la guerre fait aux architectes ?
Oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce que les architectes font de la guerre ? Et en fait, le rapport entre le client et l'architecte tourne autour de cette question.
Mais votre père, Paul, il a imprimé, il s'est imprimé dans les bâtiments qu'il a fait aussi. Quand vous voyez ce qu'il a fait, est-ce que vous voyez votre père aussi ? Pardon pour cette question un peu psychanalytique de bas étage, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous voyez sa pensée, sa vie à travers son architecture ?
Est-ce que son architecture lui ressemble ?
Oui.
Je pense qu'elle ressemble à l'image qu'il voulait donner de lui. si vous voulez...
Oh là, ça m'a l'air chargé mais tout ça.
Non, mais c'est assez vrai, pense. Oui. Et je pense que c'est pas exactement son image, mais l'image qu'on veut donner de soi.
Ouais.
Et c'est vrai aussi, sans doute, du héros du film.
Oui, je dirais, en fait, c'est ça, ce qui est fascinant avec le personnage de Lazo Toth dans le film, c'est qu'il est plusieurs personnes, en fait.
Oui.
D'un côté, c'est un artiste très ambitieux, d'un autre côté, c'est un homme complètement traumatisé, c'est aussi un drogué, il est ruinomane, on découvre ça au début du film, c'est aussi un mari qui cherche sa femme pendant la première moitié du film.
Oui.
Donc, il y a plusieurs choses, et en fait, on va comprendre au fur et à mesure du film que tout ça s'imprime dans ses œuvres, dans son œuvre qu'il est en train de construire tout le long du film.
Et Van Buren, on peut l'associer à un homme très important en ce moment en Amérique ou pas, qui a été promoteur immobilier, ou on va trop loin ?
Oui,
les promoteurs immobiliers ne font pas que du bien aux États-Unis.
Non, moi j'ai l'impression que. En fait, c'est intéressant cette idée de l'architecture de la guerre et le traumatisme de la guerre, parce que Brady Corbet a grandi aux États-Unis dans les années 80 dans l'Arizona, mais il est fasciné par l'histoire. Son premier film, ça se passe après la Première Guerre mondiale, et c'est pendant le traité de Versailles. Et donc, en fait, il s'intéresse un peu à l'histoire. J'ai l'impression que Van Buren, c'est plus un personnage qui vient de l'histoire américaine.
Oui.
Parce qu'en fait, alors Trump, en fait, au contraire de Van Buren dans le film, Trump, c'est pas un très bon businessman, mais c'est un très bon promoteur. Alors que Van Buren, il parle pas très bien, il est pas très médiatique. C'est quelqu'un d'assez clos, en fait, qu'on voit dans le film.
Et en même temps, il admire cet artiste qu'il a en face de lui.
Oui, alors que Trump, je pense qu'il admire aucun artiste. peut-être des chanteurs de country, je sais pas.
Et sur ses rapports mécène-artiste, extrêmement bien filmé, donc décrit dans le film, Toth face à ce richissime Van Buren. On écoute un dialogue entre les deux.
It is no coincidence.
Ce n'est pas une coïncidence.
Fate brought us together.
Si le destin nous a réunis la veille de la mort de ma mère.
I'm good at reading the signs.
Je suis doué pour lire les signes.
Je ne sais pas ce qu'implique cette commande.
Nous parlerons des détails à la maison, mais vous serez très bien rémunéré. Et en plus, vous disposerez d'un endroit, ici, sur la propriété, pour vivre et travailler. Je pense que le fait de résider ici vous donnera le temps et l'espace pour concevoir ce projet dans de bonnes conditions. Et votre famille, le jour où elle arrivera, sera aussi la bienvenue. Qu'en dites-vous ?
Merci.
La troupe de l'or,
je voudrais dessiner une ébauche, quelque chose que je pourrais vous montrer.
You'd like to win the commission.
Vous voulez vraiment mériter ce contrat.
All right, you can do that.
Très bien, faites donc une ébauche.
Alexandre Chemetov, il y a une des questions passionnantes par rapport à ce rapport mécène-artiste, mais et cette question peut-être, est-ce son œuvre ou répond-il à la commande ? Je pense que c'est une question que tous les architectes se posent, non ?
Oui, mais on peut dire que les architectes ne sont pas à proprement parler des artistes. Je les comparerais plus aux cinéastes, c'est-à-dire c'est un travail de transmission.
Ouais.
Et on pourrait faire un parallèle, au fond, entre Marcel Breuer, par exemple, né en Hongrie, et faisant toute sa carrière aux États-Unis, dont les chaises du film sont très inspiré d'ailleurs par l'œuvre de Marcel Breuer. Et par exemple, un personnage comme Ernst Lubitsch, cinéaste, ou Ludwig Mies van der Rohe, né à Aix-la-Chapelle, et Fritz Lang, né à Vienne, ou Walter Gropius, et Joseph von Sternberg, par
Mais c'est vrai que ça a été beaucoup abordé au cinéma.
En fait, c'est les uns et les autres sont des artistes, mais sont des artistes qui exercent d'une manière particulière dans la transmission et dans une réponse à la commande, souvent.
Oui. En ce qui concerne les cinéastes.
Oui, et j'ajouterais...
Et les architectes
oui,
aussi.
Les architectes.
J'ajouterais que oui, comme les architectes, comme les cinéastes, ils peuvent pas... Ils ont besoin de beaucoup d'argent pour réaliser leurs œuvres. Et voilà, ils peuvent pas faire ça tout seuls. Et d'ailleurs, je pense que le film The Brutalist, c'est vraiment une métaphore aussi pour la carrière même de Brady Corbet lui-même. Il a dit qu'il s'est inspiré pour l'histoire de son rapport avec un des financiers de son dernier film, de Vox Lux, où ça s'est très mal passé. Et en fait, donc, je pense que le personnage de Van Buren, peut-être c'est moins Trump qu'un producteur avec qui Brady Corbet avait travaillé avant. On est dépendant de l'argent des autres pour faire des films. Et toute la complexité, c'est comment on fait pour faire un film personnel tout en répondant à la commande et ce qui demande de l'argent.
Oui, mais Alexandre Chimetov, ce qui est très beau dans le film, enfin, ce qui est très, très passionnant, c'est qu'il le tient dans sa main. Van Buren tient dans sa main. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que sa femme va revenir, etc. Il y a un vrai rapport dominant-dominé, duquel l'autre s'extrait. Mais est-ce que c'est un rapport qui existe beaucoup dans votre métier ?
Je ne sais pas si dans le film, ce rapport n'est pas plus ambigu. C'est-à-dire qu'en fait, le dominant... Et
il se trouve
tantôt
que...
le dominé, et vice-versa. Et je pense que... Non, en réalité, le rapport nécessaire entre un client, un maître d'ouvrage et un architecte, c'est un rapport de confiance. Et cette confiance n'est pas absente du rapport qui existe entre Van Buren et Laszlo Roth. Elle est aussi présente, même s'il y a une grande perversité dans le personnage de Van Buren, mais il y a aussi une forme de confiance. Et c'est cette confiance qui est le bien le plus précieux pour fabriquer quelque chose. Parce qu'on ne le fabrique pas seul, en fait. On le fabrique dans ce rapport duel, dans tous les sens du terme.
Comme le producteur et le cinéaste dans le cinéma.
Absolument. Et je pense que Brady Corbet, il a dit qu'il a trouvé pour ce film-là, pour The Brutalist, des financiers, des partenaires qui étaient complètement en confiance avec lui pour qu'il fasse le film qu'il voulait faire, mais avec un budget très limité. C'est ça qui est fascinant, c'est que normalement, un film de niveau de Brutalist, ça coûte 5-10 fois plus cher à fabriquer. Donc lui, il était prêt, peut-être par rapport à certains architectes qui ne sont pas prêts à faire
des compromis.
Des compromis. Lui a fait énormément de compromis financiers. C'est-à-dire, il a dit, OK, je fais le film dans 30 jours, qui est impossible quand on voit le film, on ne sait pas comment il a réussi à le faire. Je fais en Hongrie alors que ça se passe en Pennsylvanie. Je vais tout faire, mais je veux final cut, je veux contrôle absolu et je veux la confiance totale de mes financiers. Il a eu, mais le compromis, c'était il fallait faire pour rien.
On n'a pas dit ça aussi, on n'a pas dit le style du film est absolument remarquable, majestueux, fabuleux. Il sait filmer l'architecture, il sait filmer les paysages, il sait filmer les acteurs.
Oui, et filmé d'ailleurs avec un processus, il a choisi le VistaVision, qui est un vieux processus qui a été inventé par Paramount Pictures dans les années 50 aux États-Unis. Et en gros, c'est un format un peu comme le CinemaScope, tourné en pellicule. C'est utilisé dans Sueur froide ou La mort aux trousses d'Hitchcock, par exemple. Et lui a choisi ce processus très lourd, mais ce qui est fascinant dans le film, il utilise ce processus pour faire un film aussi qui est très intime. En fait, la mise en scène de Brutalist, c'est entre un côté très minimaliste, peut-être parce qu'il n'avait pas le choix, parce que quand même, il n'avait pas le budget, et parfois assez maximaliste quand il va arriver à filmer l'architecture ou faire des plans très larges sur la campagne, sur le paysage. Donc, et ça, je trouve qu'il y avait une maîtrise de la mise en scène qu'on voit déjà dans le premier film de Brady Corbet, mais là, c'est un autre niveau.
Ça arrive rarement qu'au cinéma, on ait envie de sortir sortir son portable ou son appareil photo pour prendre des photos. Il y a des plans absolument somptueux. Alors, l'architecture et le cinéma, il y en a partout de l'architecture au cinéma, mais sur des personnages d'architectes, on a choisi ce matin deux films, et notamment cette fiction qui s'appelle Le Rebelle de King Vidor, dans lequel Gary Cooper incarne un peu Frank Lloyd Wright, c'est-à-dire cet architecte radical. Alors lui, pour le coup, qui refuse aucun compromis. Avant de lancer l'extrait, juste dire, enfin que c'est très important, qu'il va dynamiter un immeuble réservé aux pauvres de la population parce que cet immeuble n'a pas respecté ses ambitions.
I am an architect. I know what is to come by the...
Je suis un architecte et je sais que le résultat n'est d'une idée initiale. Nous approchons d'une ère où je n'aurai plus ma place. Mes idées m'appartiennent. On me les a prises de force en violant un contrat, sans me consulter. On a cru que mon travail appartenait à d'autres pour en faire ce qu'ils croyaient bon. Ils ont décidé, sans mon accord, qu'il était de mon devoir de les servir, sans choix ni salaire. Vous savez pourquoi j'ai dynamité Cortland ? J'ai dessiné Cortland, je l'ai fait naître, je l'ai détruit. J'ai accepté de le concevoir pour le voir édifié comme je le voulais. C'était le prix de mon travail. Je n'ai pas été payé. Mon projet a été défiguré par ceux qui ont exploité mon travail sans rien me donner en retour.
Alors là, Alexandre Chemetov, on est dans la figure radicale de l'architecte. Un autre moment du film, il dit « Je ne me bats pas pour les clients, j'ai des clients pour bâtir ».
Oui, enfin, je pense que c'est une vision très... Je pense que c'est plus intéressant ce qu'on se disait tout à l'heure sur la manière d'utiliser un budget et un programme, et ce que fait très bien Brady Corbet dans son film, ouais. C'est-à-dire cette contradiction entre le choix d'un format proche du cinémascope, la Vista Vision, ouais, et l'économie du film.
Ouais.
C'est précisément ça qui permet de faire une architecture avec des moyens limités, mais le final cut aussi, c'est-à-dire, et c'est ça la vraie question. Et ce qui est très bien décrit dans le film, et ce qui est en revanche plutôt caricatural dans Le Rebelle de King Vidor, qui ne montre pas véritablement la fabrique des choses.
Un film qui a dû voir et revoir Brady Corbet, non, Jordan?
Oui, oui, on voit à certains moments ce qu'ils sont inspirés,
oui.
Ce que André disait tout à l'heure, par exemple, quand dans le Brutalist, Adrien Brody, il dit « Je travaille pour personne, je ne suis pas un employé, et donc il choisit de travailler comme simple ouvrier sur des chantiers plutôt que d'être un architecte compromis. Et on a exactement la même chose dans Le Rebelle avec Gary Cooper,
oui,
dans une scène où il travaille dans les carrières de c'est pas du marbre, mais c'est...
Non, c'est voilà, pas du marbre.
Non, le marbre, c'est dans le film de Brady Corbet.
Qui est d'ailleurs une magnifique scène où l'architecte est dans la matière.
Dans la matière.
C'est extraordinaire.
Le type qui est un ancien partisan italien,
oui,
arrose avec sa bouteille le marbre, et que il découvre que la description qu'avait fait justement Laszlo Tot,
oui,
de cette matière se révèle comme ça.
Exactement.
Et la complicité, ouais, qui existe d'ailleurs entre ce partisan italien et cet émigré hongrois,
oui,
est tout à fait remarquable.
Oui, ouais.
Parce qu'au fond, à nouveau, on parle de la guerre et de cette complicité,
ouais,
et à nouveau, on parle de la fabrique des choses, de la matière et d'un rapport authentique à la matière.
Oui. Mmh. Oui, dans Le Rebelle de Vidor, l'architecture reste assez abstrait. C'est une idée, en fait. Une idée écrite par... En fait, c'est d'après le livre de Ayn Rand.
Une idée politique.
Une idée anticommuniste,
oui,
surtout dans le livre. Et du coup, ça... Alors que c'est vrai que moi, j'étais fasciné par dans Le Brutalist. Parfois, on est vraiment... On sent les choses d'une manière très physique, en fait. Et ça, c'est grâce aussi à la mise en scène. Et je pense à ces processus de Vista Vision qui tout devient très grand et très réel. Il y a quasiment pas de VFX dans le film. Quand on parle de voir des spectacles au cinéma, là c'est un spectacle mais réel, quoi.
Sinon, on a choisi un documentaire absolument extraordinaire qui est un grand film. Par parenthèse, on peut le voir sur YouTube parce qu'il est en intégralité, donc c'est important, parce que puisqu'on va en parler. My Architect de Nathaniel Kahn, c'est la quête intime d'un fils sur son père, le grand architecte américain Louis Kahn, un fils caché. Kahn avait 3 femmes, 3 enfants à Philadelphie qui ne se sont jamais rencontrés de son vivant, et le fils, à travers un voyage vers les œuvres de son père, part à la recherche de son architecte jusqu'au Bangladesh. On écoute un morceau de la bande-annonce de ce film.
Hi, this is Nathaniel Kahn calling.
Don't think that he was always trying to be a prince.
He did not understand it.
Isn't it just 2 strong egos?
It's pure ignorance on Lou's part.
Did you ever drink with Lou?
Yeah, you should ask my first wife.
Did anybody know that Lou had 3 families all at once?
No, that was part of his mystery.
Un homme qui est mort ruiné d'ailleurs, Alexandre Chimetov.
Oui, dans le métro de New York.
Oui. Votre père l'a connu, l'a côtoyé?
Non, je pense pas.
Non.
Non, mais il était une sorte de héros national au Bangladesh, puisqu'il avait construit la capitale Dhaka. Oui. Et d'ailleurs, dans le film My Architect, il y a cette scène absolument poignante dans laquelle le fils de Louis Kahn va rencontrer les Bangladais.
Oui.
Et qui lui disent, mais quelle que était sa vie et ses errements, pour ouais. nous, il est celui qui a fabriqué notre identité en construisant Dhaka.
Ce qui est beau, Jean-Marie Mizard, dans ce film, c'est qu'il va toucher les bâtiments, il va même faire du skate dans les architectures, il veut toucher, il veut retrouver son père.
Et d'ailleurs, il filme lui-même le bâtiment, le fils, avec une caméra 16 mm, on le voit, en fait, posé dans plein d'endroits. En fait, il dit que la pellicule, c'est mieux pour capturer justement l'architecture. Mais aussi, moi, j'ai l'impression que peut-être Brady Corbet s'est inspiré du personnage de Louis Kahn aussi, parce qu'on voit surtout un personnage en génie qui veut pas faire de compromis. Tous les autres architectes ont vivé dans le documentaire, donc il y a des gants, il y a Frank Gehry, Philip Johnson, Ian Pei, ils disent tous, oh non, non, Kahn c'était un artiste, nous on est juste des architectes, ils ont beaucoup de respect pour lui, mais on voit que c'est un personnage avec beaucoup de défauts, et ça, comme Laszlo Toth dans le film de Brady Corbet, qui est plein de défauts, et j'ai l'impression, c'est ça qui marche très bien dans le film de Corbet, c'est vraiment un personnage très imparfait, mais très émouvant parce qu'il a ce désir de faire quelque chose de grand malgré toutes ses imperfections, comme Louis Kahn qu'on voit dans le film.
Son fils est devenu documentariste, mais vous, fils d'architecte, vous êtes devenu architecte, Alexandre.
Oui, aussi, oui.
Mais aussi.
Si vous voulez, le comment dire, ce qui est intéressant avec l'œuvre de Louis Kahn, notamment dans son projet d'Amenabad pour l'Institut de technologie, c'est qu'il s'est intéressé à la fabrique des choses. C'est-à-dire qu'il a fabriqué cet institut en briques, en pensant que sur les chantiers en Inde, les gens portent les matériaux à la main, et que donc la brique était plus adaptée que le béton qu'a utilisé Le Corbusier à Chandigarh, avec des gens qui, avec des seaux, versent du béton comme ça dans des coffrages. Donc de penser la fabrique, c'est-à-dire de penser le rapport avec les détails et la façon dont on les fait, c'est quelque chose qui, justement, qui lie aussi la cinéma et architecture. C'est exactement ce que vous racontiez sur le film lui-même de Brady Corbet.
Oui, j'ai l'impression que Corbet s'intéresse beaucoup à la fabrique, de comment fabriquer un grand film avec peu de moyens si on ne veut pas faire de compromis. Et en fait, il a trouvé un système qui n'était pas vraiment appliqué avant dans le cinéma indépendant américain. C'est-à-dire qu'on va tourner à l'étranger parce que ça coûte moins cher. On va avoir des grands acteurs, mais qui vont peut-être travailler pour très peu. Et on va faire surtout une épopée qui dure 3h30 avec un tract. Mais on va faire ça avec de tout petits moyens. Donc, il a pensé tout de suite au système. Quel système de fabrication marchera pour faire un grand film avec très peu?
Vous avez compris que c'était un très grand film. Ça s'appelle The Brutalist. Vous restez avec nous, Alexandre Chemetov et Jordan Minzer. On va se retrouver pour les sorties après The Liminianas. Je vais très mal prononcer le titre de la chanson. Prisoner of Beauty.
Ça très va. Bien dit.
On y va.
Locked in the shadow.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Les films et La Pampa, qui est le premier long métrage d'Antoine Chevrolier, qui a quand même fait ses gammes à la télévision avec Le Bureau des légendes, ou Sekine, ou Le Baron Noir, entre autres Willy et Jojo. Deux ados inséparables passent leur temps à chasser l'ennui dans un petit village au cœur de la France. Ils se sont fait une promesse, ils partiront bientôt pour la ville. Mais Jojo cache un secret. Autour de ce sport, le motocross, bon vecteur de masculinité toxique, un scénario très travaillé aux coutures, des acteurs savamment dirigés, et à l'arrivée, un film dense, nerveux et tragique, Laurent.
Oui, alors il faut certainement dépasser l'impression de déjà vu que certains éléments du film peuvent donner au départ, c'est-à-dire l'ennui familial en province et la vie quotidienne lourde et étouffante. On a vu quand même ça beaucoup. Dépasser La Pampa, qui est le nom du terrain de cross, pour peut-être aller vers d'autres horizons plus vastes, sans aller jusqu'à l'Amérique du Sud et la vraie Pampa. Mais effectivement, il y a cette aspiration-là. Alors il y a l'irruption d'un traumatisme, enfin d'une cassure, on ne dévoilera pas comme ça, on ne va pas nous accuser de divulgâcher, mais qui fait que, avec la culpabilité aussi de ceux qui restent, le drame évolue beaucoup et la sortie de route balisée devient très très intéressante. Le cinéaste dit alors très subtilement l'évolution de son personnage principal à travers, par exemple, la découverte d'une tapisserie médiévale, et c'est une très très belle scène et aussi une belle conversation sur les esprits. Franchement, il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui font que La Pampa doit être vue.
Grands acteurs, Saïd El Alami, Amaury Fouché, Damien Bonnard et Artus.
Bon casting.
Maria de Pablo Larraine, la vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 77 à Paris, sa dernière semaine, émaillée de flashbacks en noir et blanc sur sa vie passée, un biopic tragique, funèbre, pour entrer dans la psyché de la cantatrice et de la femme, Laurent, avec bien sûr Angelina Jolie.
Oui, écoutez, moi j'ai plutôt assisté effectivement à la représentation de Requiem pour la Callas, opéra en un acte de Pablo Larraine, là où il avait parfaitement réussi, à mes yeux, le portrait extrêmement complexe de Jackie Kennedy dans Jackie, avec une Nathalie Portman extraordinaire. Décidément, d'ailleurs, il tourne autour de Nassis, il faudrait peut-être qu'il fasse une bonne fois pour toutes un biopic de Nassis, à force de parler de ses femmes et pas de Nassis lui-même, mais là, vraiment, il fige Angelina Jolie dans une sorte d'esthétique des années 70, en plus, tout est figé, y compris son visage à elle, en totale rupture avec les images d'archives qu'on voit à la fin et qui montrent une Callas beaucoup plus souriante, beaucoup plus vive que tout le film. Il y a peut-être quelque chose à sauver, c'est le couple Favino-Rohrwacher qui joue le couple de domestiques, et on dirait tout droit sorti de L'Argent de la Vieille de Luigi Comencini, et eux sont formidables, on aurait envie d'en savoir beaucoup plus sur eux.
Pierre Francesco qui était le traître, bien sûr.
Mais
ce film fantastique. La Mer au Loin de Saïd Hamish. Nour, 27 ans, a émigré clandestinement à Marseille avec ses amis. Il vit de petits trafics et mène une vie marginale et festive. Mais sa rencontre avec Serge, un flic charismatique et imprévisible, et sa femme Noémie, va bouleverser son existence de 90 à 2000. Pourquoi cette décennie ? Eh bien, pour le rail. Cette musique était l'un des moteurs principaux de ce film. Un film, dit Hamish, pour essayer de faire ressentir la part insondable et l'exil qui ne paraissent possibles que par le romanesque. Il a raison, cette dimension, ce sentiment, nous le partageons intimement, de même que l'importance des liens qu'il noue, des désillusions, et ce qui va construire cet homme loin de son pays. C'est un très beau film.
Très très beau, c'est très réussi, après le très réussi aussi Retour à Bolène, oui, en 2017 du même cinéaste. C'est un découpage très classique en trois chapitres, comme une pièce de théâtre ou un roman, qui pourrait être d'ailleurs L'éducation sentimentale de Flaubert, que le cinéaste cite à propos, oui, de ce personnage de Nour et le personnage de Frédéric Moreau, bien entendu. Le cinéaste franco-marocain, il donne un très très grand film sur l'exil, en fait. Et on songe à Flaubert, on songe aussi au Vitelloni de Fellini, à travers ses bras cassés, mais qui sont tellement bien montrés avec beaucoup de tendresse. Mine de rien, l'air de rien, c'est vraiment un très très grand film, cette Mer au Loin.
Il est dans peu de salles, donc allez les remplir, oui, ces salles, avec trois super acteurs, Ayoub Greta, Anna Mouglali, police, et faut-il le dire, Grégoire Collin, qui est un super
on
acteur.
On ne le dira jamais assez.
Ouais, qui joue le flic. Présence de Steven Soderbergh, le cinéaste américain qui s'est déjà attaqué à d'autres genres, entre dans celui-là, le film de Fantôme. Le fantôme, eh bien, c'est la caméra subjective qui va se balader dans cette maison investie par un couple et ses deux enfants. On ne sortira jamais d'ailleurs de cette maison, un film concept, certes, mais au-delà du concept, un grand thriller sur la famille et les névroses adolescentes. La caméra, c'est la présence. La présence, c'est nous qui regardons ce délitement familial s'opérer.
Oui, alors écoutez, une mère oedipienne avec un fils toxique, et puis elle est... une mère oedipienne, pardon, avec son fils, toxique avec sa fille, le fils est harceleur, la fille est fragile, le père est dépressif...
C'est une famille américaine, quoi.
Ah oui, bah à ce moment-là, dites donc, les pauvres, ils ne sont pas sortis de l'auberge, d'autant plus qu'ils évoluent dans une maison hantée, c'est là aussi, ça reprend beaucoup de choses qu'on a déjà vues, avec plein d'effets panoptiques d'une caméra qui balaye toute la maison, on multiplie les plans séquences brillant, ça, Soderbergh sait le faire, on le sait bien, et on convoque le genre avec des objets déplacés, une exorciste rémunérée, un miroir qui reflète beaucoup plus que la réalité, etc., etc. Tout est posé sur la table. Moi, là où j'aurais voulu, enfin, on aurait pu imaginer un film plein de mystères, ben c'est tout est là, et il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'ombre, il y a juste, effectivement, cette description froide et glacée.
N'écoutez pas ce commentaire, voilà. C'est pas vrai, la caméra, c'est nous, subjectives, oh là là, et dans des mouvements absolument magnifiques.
Est-ce que ça fait peur, le film ?
Mais pas du tout,
Mais c'est intéressant, justement, parce que...
Oui.
Ce qui fait peur, c'est pas les fantômes, c'est la famille qui fait peur. C'est là où c'est intéressant.
La famille américaine, quand vous avez... Bien
mon sûr. Gâteau, mon gâteau préféré de Mariam Mogadam et Bentash Sania. C'est un couple. Une septuagénaire vit seule depuis longtemps et pour réveiller sa vie amoureuse, provoque une rencontre avec un chauffeur de taxi et l'invite à dîner chez elle. Jusque-là, rien de spécial ni de nouveau, sauf que cette histoire se passe en Iran. De nos jours, une femme non voilée, dans une jolie robe, boit de l'alcool avec un homme chez elle. Ils écoutent de la musique et ils dansent. Et cette femme renaît à la vie au cours de cette nuit et de ce film inoubliable, poétique et politique, Laurent.
La question, c'est est-ce qu'on peut faire des comédies douces amères sur des sujets à la fois casse-gueule et convenus, comme par exemple ici, les amours entre septuagénaires. J'invite les scénaristes français, un certain nombre, à voir ce film, parce que la réponse est oui, dès lors qu'on en prend le soin. Et dès lors, par exemple, qu'on évite de ne parler que de ce couple principal, comme vous l'avez très bien dit, en radiographiant, par exemple, la société iranienne. Il y a des choses incroyables sur la censure, la police des mœurs, l'alcool interdit, etc.
Et ensuite, la voisine.
Ensuite, on resserre l'objectif. Et une fois qu'on a posé ce décor, on resserre l'objectif sur ces deux-là, et ça donne un film absolument remarquable.
Cette femme qui a 70 ans, on dirait une adolescente, qui se maquille, qui se prépare pour lui. Ce film est absolument merveilleux. Il s'appelle « Mon gâteau préféré ». 5 septembre, de Tim Felbaum, un thriller journalistique situé lors des Jeux Olympiques de Munich de 72, où l'équipe de télévision américaine ABC se voit contrainte d'interrompre subitement la diffusion des compétitions pour couvrir la prise d'otages en direct d'athlètes israéliens. Certes, la mise en scène est classique, sèche même, mais il y a une vraie réflexion sur la fabrique de l'information. Une époque où les caméras pesaient des tonnes, où ni Internet ni les portables n'existaient, et pourtant, même si les moyens techniques, technologiques sont apparus, depuis les questions restent les mêmes, et notamment celle-là. Doit-on filmer un assassinat en direct ? Et doit-on annoncer une nouvelle pas confirmée de peur de se faire griller l'exclu par la concurrence ? Une façon de s'interroger aussi sur la télé aujourd'hui et sur tous les pouvoirs qu'elle détient.
Oui, alors au fond, si on a envie de s'interroger sur aujourd'hui, autant filmer aujourd'hui et
ne pas
aller voir en 1972.
Mais non, c'est intéressant qu'avec d'autres moyens, c'est toujours les mêmes problématiques.
Bah, oui, mais justement, alors traitons-les maintenant, parce que le filtre des nouvelles technologies, par exemple, permet d'autres choses. Moi, le film sur Munich, il a été fait par Steven Spielberg. Franchement, je pense que ça a déjà été fait.
À part la fin, je suis désolé, mais la comparaison entre la scène de sexe et l'attentat...
Oui, bien sûr, mais ça, c'est pas le propos.
On peut s'en passer, ça.
C'est pas le propos de ce film. Film-là, qui est exagérément vintage, qui est très mal filmé, moi, vraiment, j'en suis absolument convaincu, et ça charrie des choses qui sont effectivement de l'ordre un peu du gros sabot de ce qu'on pense sur les journalistes. Mais on adore, nous, les journalistes, qu'on nous parle de nous, donc voilà.
Jordan, allez. Au secours, allez.
Oui, je suis d'accord avec Christine, pas avec vous, Laurent. Ce qui est fascinant, c'est le côté technologique. En fait, c'est une équipe qui a l'habitude, dans le film, de filmer le le sport.
Ça, j'ai pas
en
dit.
En fait, c'est comment transférer tout ça vers un événement live qui est un attentat. Mmh. Je trouvais tout ça, tous les rouages, tout le côté, comment on fait avec la pellicule, comment on fait avec ces grosses caméras, tout ça, c'est intéressant. Mais je trouve que les questions morales posées sont intéressantes à une époque aujourd'hui, justement, personne n'a un problème à filmer avec même leur téléphone, des choses horribles et de le balancer en ligne tout de suite.
On pense qu'à ça en creux, c'est ça qui est fou. On voit des dinosaures et en fait on pense que à ce qui nous arrive maintenant. Passionnant le croisement. On termine avec The Flats, The Alessandra Celesia. Dans sa tour HLM de New Lodge, Joe se met en scène des souvenirs de son enfance vécue durant les troubles conflits armés qui déchira l'Irlande du Nord dans les années 60 à 88. C'est une ode à la résilience et à la solidarité, Laurent.
Oui, c'est un très très beau film parce que ça parle effectivement de ses destins fracassés.
Ah oui, on est très pressé, pardon.
Le handicap, on est très pressé, donc on dira juste que c'est une formidable leçon d'humanité et de souffrance. The Flats, il faut aller le voir.
Réédition de l'homme de la rue, un festival à Vesoul sur l'Asie, et à Clamcy.
Sur les cinémas engagés, allez à Clamcy, la programmation est très belle et très intéressante.
Et alors, deux cadeaux, donc un chacun.
Deux cadeaux. Allez, pour vous, monsieur l'architecte, monsieur Chemetov, il paraît que vous avez été un peu consulté pour Notre-Dame de Paris. Eh bien, on vous offre ce DVD formidable d'un film ancien qui date juste de 1923, mais qui est une très belle édition. C'est chez Rimini, le merveilleux éditeur, version 4K restaurée. Deux heures de très, très grand spectacle avec Lon Chaney, l'incroyable Lon Chaney. Et puis pour vous, Jordan Minzer.
On sait que vous avez aimé ce film.
Les graines du figuier sauvage. Il a fait waouh. C'est bien, il fallait faire waouh. C'est chez Pyramide de Mohamed Razoulov, évidemment, DVD Blu-ray, avec de très beaux bonus sur ce très beau film.
Merci à tous les deux, merci Alexandre Chemetov, merci Jordan Minzer et ce grand film The Brutalist sort mercredi prochain. Merci à Nicolas Sabat, un merci particulier, à Valérie Aestaraï pour la réalisation, Louis Tempero pour la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Merci, salut.